France Culture avec philosophie Géraldine Mulman.
Je vous propose de redécouvrir quelques émissions que nous avons consacrées en 2023 à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, intelligence artificielle, un nouveau cap est-il franchi ? Le 29 mars 2023, une lettre ouverte a été publiée, signée par plusieurs milliers de personnes, dont des dirigeants du monde de la technologie et de l'intelligence artificielle, des universitaires, des ingénieurs. Cette lettre appelait à un moratoire de 6 mois des recherches en matière d'intelligence artificielle en raison du repérage de certains risques, parmi lesquels, disait-on, la perte de contrôle de notre civilisation ou encore le risque que nos canaux d'information soient inondés de propagande et de mensonges. Je cite. Manifestement, quelque chose est en train de se passer qui rend inquiet désormais même les chercheurs et les philosophes ordinairement les plus sereins. Un cap vient-il d'être franchi en matière d'intelligence artificielle ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Andler, professeur émérite de philosophie à Sorbonne Université, l'ancienne Paris 4, et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Daniel Andler, vous avez été le fondateur et le premier directeur du département d'études cognitives de l'École normale supérieure de 2000 à 2005, dont vous êtes toujours membre. Vous avez publié en 2023 chez Gallimard « L'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, la double énigme ». Dans le hors-série de Philosophie Magazine, consacré à l'intelligence artificielle et paru en mai 2023, vous faites remarquer que longtemps, vous disiez qu'il ne fallait pas s'affoler et que l'intelligence artificielle ne représentait pas un grave danger, mais qu'aujourd'hui les choses ont changé et que vous percevez désormais une vraie menace, vous nous direz laquelle. J'accueille aussi Jean-Michel Roy, professeur des universités en philosophie et sciences cognitives à l'École normale supérieure de Lyon. Vous avez longtemps travaillé avec Daniel Andler, en tout cas vous connaissez ses travaux, et vous avez lu son dernier livre, Quoi de mieux, qui de mieux plus exactement, pour dialoguer avec lui ce matin à propos du nouveau cap éventuel franchi par l'intelligence artificielle ces derniers temps. Que vous, Jean-Michel Roy, qui suivez de très près tous les enjeux philosophiques liés à ce domaine de recherche. Bref, bienvenue à tous les deux.
Je travaille dans la technologie, il ne faut pas avoir peur de la technologie, mais la technologie n'est pas neutre pour autant dans la manière dont on la développe. Et c'est pour ça qu'il y a la notion de responsabilité. Et pour développer une technologie, il faut être responsable. Je ne crois pas qu'on vit cette menace existentielle, même si dans la pétition que j'ai signée, il y a ces éléments. Ce n'est pas parce qu'on signe une pétition qu'on est d'accord avec chaque mot, chaque virgule. Ce qui est important dans la pétition, c'est de lever un carton rouge en disant « Attention, là, il y a un danger, et ce danger, il faut d'abord le maîtriser avant de, effectivement, pouvoir déployer ces systèmes. » Donc, on fait une pause, on regarde comment on peut contrôler.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Vous venez d'entendre Raja Chatila, qui est un professeur émérite à la Sorbonne et signataire de la lettre des chercheurs du 29 mars dernier dont j'ai parlé, qui demandait un moratoire sur l'intelligence artificielle. Alors, tous les deux, Jean-Michel Roy ainsi que Daniel Andler, est-ce que vous aussi, vous ne partagez pas forcément tout ce qui est dit dans cette lettre pétition à propos des dangers de l'IA, mais néanmoins, vous considérez que ce moratoire est fondé, que c'est une bonne démarche parce qu'il y a des dangers, Daniel Andler ?
J'ai reconnu tout de suite la voix de Raja Chatila, que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup, avec qui nous discutons souvent. Je pense que c'est une bonne idée de mettre en avant effectivement les dangers. Un seuil a été franchi effectivement en matière de déploiement et d'efficacité de ces systèmes d'intelligence artificielle. Je ne crois pas à la possibilité pratique d'un moratoire. Je ne pense pas que 6 mois vont permettre de changer les choses. Et surtout, je ne pense pas que ce moratoire sera respecté, y compris par un certain nombre de leaders de l'industrie qui l'ont signé. Il y a eu un moratoire sur les manipulations génétiques qui a été historique en 1975 à Asie Lomar. Et donc l'idée, c'est que tant qu'on n'a pas vraiment bien compris comment les choses se passent, il faut qu'on arrête parce qu'il y a peut-être des dangers. Mais le problème ici est tout à fait différent. Effectivement, on ne sait pas très bien comment marche et pourquoi marche si bien un certain nombre d'algorithmes, mais néanmoins, on n'a pas non plus l'idée qu'on va découvrir en 6 mois comment et pourquoi ils marchent mieux et pourquoi on pourrait les déployer d'une manière plus respectueuse, plus éthique, plus sûre en quelque sorte. Donc je ne crois pas du tout au moratoire, je crois que personne n'y croit.
Vous êtes mais vous pensez que ça ne sert à rien en gros.
Voilà, c'est ça,
pour le
dire rapidement. Voilà.
Alors, d'ailleurs pour les non-spécialistes c'est un peu troublant 6 mois, parce qu'on se dit 6 mois c'est pas grand chose, mais il semblerait que les choses aillent si vite que 6 mois c'est bel et bien quelque chose. Et d'ailleurs c'est tellement long pour l'industrie qui s'occupe d'IA que dites-vous, ça ne va pas tenir.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la concurrence est telle entre les très grandes corporations qui sont capables, qui ont le savoir-faire et surtout les ressources calculatoires et en matière de data. La concurrence est absolument très, très, très vive. Et la concurrence entre les pays, si l'Amérique, mettons Silicon Valley, s'arrête pendant 6 mois, elle va se faire doubler par la Chine, et donc de cela il n'est pas question, pour des raisons stratégiques, des raisons de fierté nationale, des raisons d'efficacité. Donc on ne s'arrêtera pas.
Jean-Michel Roy, vous êtes vous aussi à la fois pour le moratoire et certain qu'il ne servira pas à grand-chose ?
Je suis un petit peu sur la même position, en effet. C'est-à-dire qu'en fait, je ne le comprends pas bien. Vous avez déjà vous-même mentionné plusieurs difficultés. Pourquoi 6 mois ? Comment implémenter un moratoire ? Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est ce qui justifie aujourd'hui, dans la situation présente, je ne comprends pas bien l'espèce de crise qu'il y a.
Ah oui ?
Pourquoi, par rapport à il y a 15 ans, si on reprend justement la chronologie de la chose, Daniel Handler le fait dans son ouvrage, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en 2022 avec essentiellement donc ChatGPT 4 ou ChatGPT 4, qui fait que là on vient de passer un nouveau cap, selon le titre même de l'émission que vous nous proposez, par rapport à 2017, par rapport à 2018. Et donc là, je ne sais pas exactement à quoi répond cette espèce de sentiment d'urgence particulière, au point que il faudrait arrêter pendant 6 mois. Pour modifier la situation.
Vous n'êtes pas certain qu'il y ait là, justement, un nouveau cap ? C'est ce qui est sous-entendu, mais ça n'est pas clair pour vous.
Je n'ai pas la connaissance suffisante pour avoir suivi toutes les innovations, avoir une appréciation fine du détail des augmentations de performance, mais je n'ai pas le sentiment qu'on vient de passer là un cap qualitatif qui serait, par rapport à il y a quelques années, qui serait tel qu'il justifie un moratoire au-delà du fait...
Je vous remercie de poser la question directement, parce que c'est vraiment le sujet. Pour beaucoup de gens, les choses ne sont pas claires. Daniel Handler, un saut qualitatif vient-il d'être franchi, notamment avec ChatGPT ?
Alors, je crois que je vais proposer une sorte de synthèse entre le point de vue de Jean-Michel et puis ce sentiment général qui est exprimé par le fameux appel à moratoire. Sur le plan scientifique, effectivement, nous sommes sur une pente régulière de progrès. Donc, il n'y a pas un seuil. C'est-à-dire qu'en réalité, ChatGPT notamment... Alors, il faut quand même dire d'entrée de jeu que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui est loin de se limiter à ChatGPT. C'est vraiment très important. Mais prenons quand même ChatGPT et GPT-4 et les autres modèles. Hein, il y en a maintenant 50, 60, tous plus performants les uns que les autres. Donc il y a cette marée, en quelque sorte, d'instruments. Alors, du point de vue scientifique ou technico-scientifique, effectivement, ils sont dans la continuité. Ils sont dans la continuité. Il y a eu un certain nombre d'étapes. Une étape essentielle a été franchie en 2012, au moment où, disons, le paradigme que j'appelle, avec un terme un petit peu ancien, le connexionnisme, on appelle ça le deep learning, éventuellement l'apprentissage profond.
Je promets qu'on reviendra sur tous ces termes.
On reviendra là-dessus, d'accord. Oui. Donc, il y a eu un moment où ce paradigme, en quelque sorte, envahit, pris possession, en quelque sorte, de l'IA, au détriment du paradigme ancien, en quelque sorte. On en reparlera peut-être. Et puis il y a eu 2017, où il y a eu un papier, un article, faisant mention d'une découverte, d'un nouveau procédé, toujours dans la continuité, c'était pas la pomme qui tombe de l'arbre, c'était dans la continuité, mais ça a incontestablement ouvert la porte à ChatGPT. Et là, il y a la discontinuité, elle est au niveau du déploiement de cette technologie. D'une part, à force de progresser, eh bien, on est arrivé à des systèmes très performants. On est arrivé à des systèmes qu'on ne comprend pas complètement. Leurs inventeurs eux-mêmes ne savent pas bien pourquoi ça marche,
c'est
pourquoi
ça marche si bien. C'est peut-être ça le problème de fond, non ?
Ça, c'est un problème. Ben oui, puisque tant qu'on ne sait pas très bien... tant qu'on n'a pas vraiment compris comment ça marche, on va avoir du mal à brider, en quelque sorte, la machine. Mm-hmm. Alors, l'espoir des signataires de la pétition, c'est peut-être qu'en 6 mois, on aura découvert, mais ça, je ne suis pas du tout optimiste là-dessus. Je pense simplement que l'idée d'avoir lâché, si vous voulez, ChatGPT dans le grand public et d'avoir tout à coup, donc littéralement, des centaines de millions de gens de par le monde utilisés à des fins honnêtes ou malhonnêtes pour ruser ou pour accomplir un certain nombre de tâches, tout à coup, c'est, si vous voulez, c'est comme si on passait, je sais pas, des voitures au début du siècle ou du 20e siècle, où il y avait peut-être 500 foot techniques, 500 aristocrates qui roulaient sur les routes de France, ça c'est pas grave, mais si tout à coup il y a 50 millions ou 40 millions de véhicules sur les routes de France, ben oui, ça change beaucoup les choses, même si, sur le plan strictement technique, ben les voitures d'aujourd'hui sont pas tellement différentes des voitures d'autrefois.
Concrètement, on a besoin là de comprendre... ChatGPT, c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle, je dis elle parce qu'on dit une intelligence artificielle, ce qu'elle peut apprendre, et est-ce que vraiment les chercheurs ne comprennent plus bien pourquoi elle apprend si bien ?
Oui, c'est-à-dire, disons, aux deux tiers, on comprend à peu près ce qui se passe. C'est-à-dire, on comprend d'une part que ChatGPT s'informe en balayant tout ce qu'il y a d'à peu près fiable sur le net, n'est-ce pas ? C'est-à-dire quand même très très importante du savoir humain, mais aussi des pratiques langagières humaines, des discussions, des conversations, des argumentations, les œuvres littéraires, tout ça a été ramassé par ChatGPT et ses confrères ou ses collègues, si je puis me permettre. Mmh. On comprend aussi, un peu moins bien, mais quand même en gros, comment tout ça arrive à être stocké en quelque sorte et restitué d'une manière pertinente, mais on n'arrive quand même pas très bien à comprendre pourquoi ça marche si bien et pourquoi ChatGPT semble avoir dépassé les limites assez évidente des systèmes précédents qui traitaient du langage naturel. C'est-à-dire qu'ils arrivent à produire un langage qui est tout à fait semblable au langage humain, qui a les propriétés grammaticales, mais les propriétés aussi rhétoriques du langage humain. Et comment ChatGPT arrive à répondre à des requêtes, les fameux prompts, des requêtes en mélangeant ou en combinant de manière originale des informations qu'il accueillit à gauche et à droite. Mmh. Il faut surtout pas s'imaginer que ChatGPT n'agit que comme un dictionnaire. On lui demande la date de Waterloo, il va chercher la date de Waterloo comme faisaient autrefois les systèmes.
Non,
ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Elle se corrige.
Elle se corrige. Elle répond. Si vous dites à ChatGPT je trouve que c'est un peu superficiel ce que tu m'as raconté, tu as un petit peu oublié quand même que Shakespeare déjà, etc. Il dit, ah oui, je m'excuse, c'est vrai, j'ai été bête, j'aurais dû effectivement rappeler que Shakespeare ou Milton ou je ne sais pas quoi. Donc c'est assez impressionnant et c'est assez inquiétant. Unheimlich, je dirais.
Freud. Merci. Voilà. Je voudrais qu'on essaye de mieux comprendre pourquoi c'est neuf, cette manière de fonctionner pour une intelligence artificielle. Vous avez évoqué plusieurs ruptures. Nous, le grand public, on se souvient par exemple que Deep Blue, ordinateur, avait battu aux échecs le russe Garry Kasparov en 1997. Mais si j'ai bien compris ce que j'ai lu pour préparer cette émission, Plus étonnante encore a été AlphaGo, 20 ans plus tard, et peut-être que ça va nous mettre la voix sur ce qui a changé et ce qui est neuf aujourd'hui avec ChatGPT. AlphaGo a battu le sud-coréen Lee Sedol en 2016 au jeu de Go. On a l'impression qu'elle avait extraordinairement appris, notamment parce que les big data, c'est-à-dire l'accès à tout un tas d'informations et de statistiques possibles sur les coûts des joueurs, lui étaient disponibles. On écoute un extrait du documentaire AlphaGo The Movie, réalisé par Greg Coase en 2017.
Les technologies au cœur d'AlphaGo sont ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds. C'est ce qui imite pour l'essentiel les réseaux de neurones que l'on retrouve dans le cerveau humain. C'est une très vieille idée, mais récemment, en raison de l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, ces réseaux neuronaux sont devenus extrêmement puissants, quasiment en une nuit. Les grands réseaux de neurones profonds qui traitent des big data peuvent accomplir des choses surprenantes. AlphaGo a trouvé une manière d'apprendre à jouer au Go. Apprendre est la chose importante ici, puisque c'est une machine qui apprend. Toute la beauté de ce type d'algorithme est que, parce qu'ils apprennent pour eux-mêmes, ils peuvent aller au-delà de ce que nous, en tant que programmateurs, savons faire et avons fait. Ils nous permettent de faire de nouvelles découvertes dans les domaines des sciences et de la médecine. Donc AlphaGo est un pas important en direction de ce but ultime.
Et pour ce qui concerne le rôle des big data dans la préparation d'AlphaGo, voici un autre extrait du même documentaire.
Les commentateurs professionnels ont quasiment tous dit que pas un seul joueur humain aurait choisi le coup 37. Donc je suis allé faire un tour dans AlphaGo pour voir ce qu'AlphaGo pensait. Et AlphaGo était en fait d'accord avec cette appréciation. AlphaGo a dit qu'il y avait une probabilité de 1 sur 10 000 qu'un joueur humain ait joué le coup 37. Donc il savait que c'était un coup extrêmement improbable. Il a été au-delà de son guide humain et il a apporté quelque chose de nouveau, de créatif, de différent.
Daniel Handler, je voudrais comprendre qu'est-ce qu'elle avait de neuf déjà, AlphaGo.
Alors d'abord, il faut savoir qu'AlphaGo a appris surtout en jouant contre lui-même.
Ça, cette c'est fois, une... on dit « il ». Allez, hein? On dit « il » au lieu de « elle ». On ne sait pas bien quel genre leur donner aux IA. Allez, on dit « il », je vous écoute.
Alors, moi, oui, c'est parce que je n'aime pas une IA, parce qu'il y a l'IA avec l'article défini, et une IA et les IA, je trouve ça pas beau.
D'accord.
Et donc, je propose système artificiel intelligent, et en cela, je suis rejoint notamment par Aja Chatila et d'autres auteurs très respectables. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu tendance à dire « il ». Donc, AlphaGo a appris, effectivement, le commentateur américain a tout à fait raison, la grande vertu de ces systèmes, et ça c'est très différent justement de Deep Blue, qui relève, disons, du paradigme ancien, ces systèmes apprennent. Ils apprennent, et ils apprennent en ajustant peu à peu leur représentation interne du domaine. Mm-hmm. Et ils le font en se corrigeant eux-mêmes. Au départ, ils sont très mauvais, et puis peu à peu, ils corrigent de manière progressive, extraordinairement astucieuse sur le plan, si vous voulez, mathématique, de manière à se rapprocher de réponses de plus en plus correctes et performantes. Et en jouant contre lui-même, AlphaGo a appris lui-même, s'est appris en quelque sorte à lui-même, comment jouer de mieux en mieux et, disons, trouver des coups de plus en plus intéressants. Mais il ne faut pas non plus imaginer que AlphaGo est intelligent au sens humain. Il a constaté que ça marchait mieux comme ça et il en a tiré les conséquences. La prochaine fois, ben voilà. Simplement, ce sont des stratégies extraordinairement complexes. Ce n'est pas simplement il faut faire ceci ou pas faire cela, il faut faire ceci dans telle et telle condition, selon la configuration atteinte, selon l'état de la partie, l'historique de la partie, et tout ça s'organise dans ces couches superposées, en quelque sorte, constituées par ces réseaux de neurones. Deep learning, ça veut dire apprentissage sur un grand nombre de couches, chaque couche se chargeant, en quelque sorte, d'un aspect des choses, de conceptualiser un aspect des choses d'une certaine façon plutôt que d'une autre.
Jean-Michel Roy, vous êtes spécialiste de sciences cognitives, ce qui concerne d'abord les humains. C'est nous qui avons comme ça une cognition. Nous sommes capables de deep learning, nous les humains, au sens où Nous apprenons de l'expérience, nous savons nous adapter. Est-ce que c'est précisément cela dont on pensait longtemps qu'on ne pourrait pas l'appliquer aux machines, que les machines ne seraient pas capables d'apprendre de l'expérience? Et est-ce que c'est cela, d'après vous, qui crée, alors là je m'exprime comme Daniel Handler, l'énigme actuelle autour des intelligences artificielles dont on comprend, on voit que ça marche, mais on ne sait pas encore bien pourquoi?
Disons, d'abord, je voudrais juste revenir, si vous permettez, sur la synthèse qu'a proposé tout à l'heure Daniel Handler et préciser un petit peu ce que je voulais dire. Ce qui m'a semblé, c'est que dans les performances, il y avait des performances nouvelles, mais elles étaient justement dans une logique d'augmentation progressive. Et donc, je partage tout à fait, c'était le point auquel je voulais en venir, c'est qu'il me semble que ce qui se passe aujourd'hui, la façon dont la société est saisie, et notamment par exemple la communauté philosophique qui est quand même en grande part assez apathique jusqu'à maintenant vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Il y a quand même peu de philosophes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, alors qu'en fait c'est parfaitement troublant et ça fait longtemps qu'on produit, et notamment dans le domaine de la robotique, que Daniel Handler le sépare beaucoup du domaine de l'intelligence artificielle. Moi je vois les choses un petit peu différemment, mais les laboratoires sont depuis très longtemps plein de créatures tout à fait étranges, des créatures animales en particulier. Vous voyez des serpents artificiels, quand vous voyez des insectes artificiels, quand vous voyez des chiens artificiels, etc., qui aujourd'hui ont des capacités, des performances motrices, c'est extrêmement troublant. Oui. Et naturellement, donc ça appelle la réflexion. Et donc ce que je pense qui se passe, c'est le point sur lequel je voulais revenir, c'est effectivement que là, tout d'un coup, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a quelque chose qui pénètre la société, qui attire tout d'un coup la société sur la base effectivement d'une augmentation de performance, mais qui ne renvoie pas à une révolution scientifique immédiate, d'après ce que j'ai compris. Et effectivement, donc la question de fond, par contre, c'est de savoir si à plus long terme, c'est-à-dire non pas immédiatement dans les 6 mois qui viennent de passer, notamment depuis cet événement qu'on peut appeler l'événement GPT-4, mais si là il y a cette transformation du deep learning en particulier, puis c'est ce qu'il y a derrière, si elle correspond véritablement au passage d'un cap dans le rapprochement entre l'intelligence artificielle et et l'intelligence naturelle. Effectivement, là, on augmente. On diminue l'écart entre certaines performances des humains et certaines performances de ces machines.
Ça, elles c'est font à même partir les choses de là mieux que nous, parce que nous, on n'est pas capables.
Pardon.
Elles font même certaines choses mieux que nous.
Voilà.
Elles sont capables d'intégrer plusieurs
plus de mémoire, elles
dizaines
ont plus
de milliers,
de rapidité,
voire
de calcul,
millions
exactement.
De cas, alors que nous, quand même,
mais ce qui est paradoxal néanmoins, en tout cas, c'est ce que me semble être la position adoptée par Daniel Handler dans son livre, c'est que d'une certaine manière, la façon dont ces performances ont été obtenues l'ont été d'une manière qui, au moins en première analyse, sont particulièrement éloignées de la manière dont nous fonctionnons. Puisque, et c'est pour revenir également sur un autre point qui était mentionné tout à l'heure, c'était celui de la difficulté à comprendre ces machines, ce qu'on appelle l'opacité de ces machines. C'est quand même tout à fait extraordinaire que, comme on en connaît le principe général, mais ce que l'on a du mal à comprendre, c'est le détail du déploiement de ce principe. Or, en fait, on part d'un principe, on dit que ce sont des machines essentiellement statistiques qui fonctionnent essentiellement sur la compréhension de lois statistiques, mais qui, in fine, et ça, Daniel Handler le dit très bien à un moment dans son livre, simplement, il n'apporte pas de réponse à la question en disant que c'est un problème justement auquel que l'on ne sait pas résoudre. Et in fine, vous avez un ensemble incroyable de performances qui sont acquises et de performances qui sont très proches des nôtres. Et là, il y a quelque chose de quasiment magique. C'est-à-dire, comment passe-t-on de l'un à l'autre? Et là, je pense qu'il y a un défi théorique extrêmement important, extrêmement fascinant. Comment, de ce principe de base, parvient-on à cette multiplicité donc de performances qui, en plus, sont qualitativement très proches des nôtres? Et là, ça renvoie véritablement. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en principe, ce sont des machines qui vont fonctionner de façon très différente de nous, précisément.
Alors, un cap a-t-il été franchi en matière d'IA, d'intelligence artificielle? J'en parle ce matin avec Daniel Andler et Jean-Michel Roy, deux philosophes qui connaissent extrêmement bien ces sujets. Et Daniel Andler, on va parler de votre livre. Mais j'aimerais, pour qu'on comprenne bien les enjeux de ce livre récent, qu'on fasse un tout petit retirement en arrière. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, l'intelligence artificielle, le principe de simuler sur des ordinateurs des fonctions cognitives qui normalement jusque-là nous était réservé à nous les humains, date d'Alan Turing, autour de 1950. Et puis, en 1956, notamment, il y a eu une étape très importante. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire par une machine des démonstrations de théorèmes, de logique mathématique, de manière tout à fait stupéfiante. Est-ce que, dans cette période-là, on pensait qu'on pourrait vraiment modéliser toutes les fonctions cognitives? Je veux dire, par là, est-ce que au départ, dans les projets d'intelligence artificielle, on avait un sens des limites et on savait par exemple que tous les aspects plus émotionnels de l'intelligence humaine, parce qu'il y a aussi l'émotion et l'intelligence ne sont pas antithétiques, tous les aspects plus sensibles, on était bien conscient à ce moment-là qu'on ne pourrait pas les modéliser.
Ah, non, pas du
non,
tout.
Non, on n'était pas conscients.
Si. Non. Les pionniers étaient plus intelligents qu'on les en crédite d'habitude. Il y a un changement. Je vais répondre tout de suite à votre question, mais je veux simplement souligner le changement de position en reprenant ce que disait Jean-Michel Roy à propos de l'attitude des philosophes par rapport à l'IA. Il y a eu donc la période dont vous parlez, c'est-à-dire les années 50, les années 60, et où il y avait cette IA des commencements, je vais y revenir très, très rapidement, et le problème était que, un, ça ne marchait pas très bien, il fallait avoir le courage de le reconnaître, oui, plutôt que de dire, oh, regardez, c'est formidable, maintenant les machines font ceci, cela. Et il fallait comprendre pourquoi ça ne marchait pas très bien, parce que c'était pas bête du tout, l'idée de départ. L'idée de départ, c'était simplement de copier, en quelque sorte, les procédures rationnelles. Quand moi, je joue aux échecs, je fais ceci et cela. Quand j'essaie de démontrer un théorème de géométrie plane, je fais ceci et cela. Eh ben, une fois que le ceci et cela est dit de manière suffisamment claire et détaillée, eh bien, je peux transformer cette description du procédé que moi, humain, j'ai suivi pour arriver à la solution. Je peux l'écrire sous forme d'un programme informatique et le faire tourner sur une machine. Donc, la machine devrait être capable, oui, de faire autant. Et puis, ça marchait pas très bien. Les performances étaient assez modestes. Et donc, le problème pour un philosophe, c'était d'expliquer pourquoi ça marchait pas très bien. Il y a eu des travaux en ce sens. Maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que ça marche beaucoup, oui, mieux que ça devrait. Et le problème, aussi bien pour les technologues, si vous voulez, les informaticiens, les ingénieurs, que pour, disons, les philosophes qui étudient la chose, c'est de comprendre pourquoi, de constater, on est obligé de reconnaître, ce qu'a fait très bien Jean-Michel à l'instant, que ça marche très bien. Pas parfaitement, on pourra peut-être y revenir, mais ça marche quand même très bien, on ne comprend pas très bien pourquoi.
Et alors,
ça,
puisque vous êtes là, on va revenir après à l'ensemble des questions à déplier, mais est-ce qu'il y a notamment un débat, quand même avec philosophie, on est obligé d'évoquer, c'est bien notre rôle, un débat épistémologique. Si j'ai bien compris, tout à fait au début, avec Alan Turing, il y avait plutôt une vision qu'on appelle connexionnaliste, mais peut-être que j'ai rien compris, de l'intelligence artificielle. Pendant un certain temps, on pensait qu'on pouvait, il fallait mettre des neurones artificiels en quelque sorte en transistor. C'est l'expression que j'ai lue. Et puis, à partir des années 50-60, un autre paradigme s'est développé qu'on appelle fonctionnaliste. C'est celui-là peut-être qui soudain a montré ses limites et on est peut-être revenu au précédent. Est-ce que j'ai bien étudié?
Oui, alors il y a.
C'est sans doute plus compliqué que ce que je viens de dire.
Notre rôle à tous, c'est de rendre les choses compréhensibles. Pas simplement dire, ouh là là, c'est compliqué, vous simplifiez, etc. Ouais. Non, disons qu'on peut être fonctionnaliste aussi bien dans le paradigme symbolique, si vous voulez, qui est celui, effectivement, qui a démarré l'intelligence artificielle au milieu des années 50, la fameuse réunion de 1956 à Dartmouth. Donc on est parti sur un paradigme qu'on peut dire rapidement symbolique ou logique. C'est-à-dire un paradigme qui ressemble à ce que, enfin, qui est illustré par ce que je viens de dire à l'instant, la résolution de problèmes à partir de procédures essentiellement conscientes, l'être humain qui réfléchit à comment gagner une partie d'échecs, comment planifier son voyage de Paris à New York, comment, etc. Donc, ça, et alors, l'aspect fonctionnaliste, c'est dire que, et là, vous avez eu tout à fait raison de le relever à ce propos, l'aspect fonctionnaliste, c'est dire que on se fiche pas mal de savoir quel est le substrat. Est-ce que ce sont des neurones dans le cerveau humain qui communiquent de telle et telle façon à travers des synapses, etc. Ou est-ce que c'est un ordinateur qui, évidemment, sur le plan physique, est constitué très différemment. On s'en fiche. Ce qui est important, c'est finalement la fonction réalisée, c'est le résultat. Mais le connexionnisme peut aussi être interprété de manière fonctionnaliste, c'est-à-dire que on peut très bien dire que les méthodes connexionnistes, qui sont effectivement les méthodes qui ont pris le dessus à partir à peu près, disons progressivement, du milieu des années 80, mais surtout à partir du début du 21e siècle, ces méthodes-là, cette forme de modèle, si vous voulez, qui n'était plus l'ordinateur à la Turing, mais qui était le réseau de neurones à couches, eh bien, lui aussi est très différent de la constitution humaine, cérébrale humaine, même s'il s'en inspire plus ou moins, il y a des discussions là-dessus, mais c'est un peu la même idée que, après tout, deux machines très différentes, le cerveau humain d'une part et un réseau de deep learning d'autre part, peuvent accomplir la même fonction.
Bon, donc je suis quand même un peu rassurée. Si je vous comprends bien, c'est le connexionnisme qui était un tout petit peu mis de côté un certain temps, comme paradigme, qui est revenu, voilà. Et qui peut-être a rendu tout d'un coup les choses plus... Enfin, ça marchait mieux, quoi. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que dans l'histoire des sciences, Jean-Michel Roy, on apprend de ses échecs. Et souvent, un paradigme qu'on a un peu mis de côté, en le faisant revenir, on avance.
Oui, tout à fait. C'est même extrêmement intéressant ce cas-là, puisque, comme le disait Daniel Handler, en réalité, la bonne analyse des choses, c'est-à-dire que il y avait deux modèles de mécanismes. Un mécanisme, ce qu'on appelle la machine de Turing, c'est-à-dire ce sont des mécanismes calculatoires, donc des machines qui permettent alors de calculer en un sens large, on dit aussi de traiter de l'information. Vous avez deux modèles. Mais ces deux modèles sont présents dès le départ, à la fois pour penser, théoriser l'intelligence naturelle, disons, et également pour essayer de la reproduire dans des machines. Donc ce sont à la fois des modèles pour essayer de comprendre la production naturelle de l'intelligence et ce sont des outils pour essayer de produire artificiellement. Et à ce double titre, ils sont présents dès le début et c'est une espèce de grande compétition. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas sortis de cette compétition, mais que nous sommes toujours à l'intérieur de cette compétition depuis le début. Et alors, ce que j'ai appris là, en lisant donc le livre de Daniel Handler, c'est une chose que j'avoue que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, le deep learning actuel, post-2017, donc ce qu'il... Daniel Handler fait une opposition entre le deep learning classique qui naîtrait donc dans les années 2010, comme en fait point culminant du retour de l'approche dite connexionniste, connaîtrait à partir de 2017 une évolution, mais qui consisterait fondamentalement finalement à reprendre à nouveau des éléments de ce qu'on appelait l'architecture classique ou disons de l'autre modèle. Et donc ça, c'est tout à fait donc étonnant, c'est-à-dire que en réalité, les récentes avancées, si cette analyse est bonne et si je l'ai bien comprise, cette récente avancée du deep learning telle qu'elle a créé l'actualité ChatGPT 4, en réalité, nous fait à nouveau réouvrir ce problème, ce débat entre les de qui est le plus fructueux et
France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Un cap nouveau a-t-il été franchi en matière d'intelligence artificielle ? Nous en parlons ce matin avec Daniel Andler et Jean-Michel Roy, deux philosophes qui connaissent bien les sciences cognitives et les recherches en matière d'intelligence artificielle. Je voudrais maintenant qu'on parle des dangers. Sont-ils fantasmés ? Sont-ils exacts ? Notamment à propos de cette révolution, parce que c'est quand même ce que vous semblez dire, Daniel Andler, de l'intelligence artificielle depuis en gros 2017 et peut-être même un moment particulièrement troublant depuis 2022, puisque le problème avec ChatGPT, si je vous ai bien suivi, c'est qu'on ne la comprend pas complètement. On l'a fabriquée, mais on ne sait pas tout à fait pourquoi elle marche si bien. Alors l'un des dangers, je crois, qui vous préoccupe vous-même et pas seulement les plus angoissés d'entre nous, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire aux intelligences artificielles. C'est ce qu'on appelle le deep fake. Vous nous expliquerez ce que c'est. Écoutez d'abord l'extrait d'un reportage de BFM TV de janvier 2023. C'était une émission qui s'appelle Tech & Co.
Microsoft vient de créer une des machines à deepfake les plus efficaces au monde. Son nom, Vali, un logiciel de lecture de texte qui permet d'imiter la voix de n'importe qui. Selon Microsoft, il suffit de donner au logiciel un extrait de seulement 3 secondes avec la voix de n'importe qui. Milked cow and tames the fire. Ensuite, vous pouvez écrire ce que vous voulez et le logiciel arrivera à le relire avec la voix de la personne dans l'extrait, avec les mêmes intonations naturelles, etc.
And lay me down in my coal bed and leave my shining lot.
Enfin, ça c'est la promesse. Dans les faits, le programme n'est pas parfait et l'intonation est parfois légèrement métallique.
Why should I rest and be stupid and sit in an action because I am a girl?
Mais avec seulement 3 secondes de voix pour s'inspirer, les voix générées par Vali restent quand même impressionnantes. Bon, Vali a aussi été entraîné sur 60 000 heures d'anglais en amont. Une performance qui pourrait servir à beaucoup de choses, comme par exemple générer des livres audio ou des podcasts. Mais aussi à des usages beaucoup moins drôles, comme par exemple créer des deepfakes de n'importe qui. Responsable politique, star, personne ne serait à l'abri de voir sa voix détournée et modifiée pour lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites.
Daniel Andler, parlez-moi du deepfake, je voudrais mieux comprendre.
Oh, c'est bien pire que ce que dit mon collègue là-bas. C'est pas seulement la voix, c'est le visage, c'est la gestuelle, c'est tout ce qui, disons, donne une apparence convaincante à Jean-Michel Roy. Demain, je peux avoir Jean-Michel Roy avec sa voix, avec son aspect, mais accomplissant ou faisant des choses qui n'a pas faites.
En image, on est d'accord, pas en 3D. Image. Je ne peux pas l'avoir comme une statue parlante où je le confondrais avec Jean-Michel Roy.
Ah si, si, vous pouvez tout avoir.
C'est vrai ?
Ah oui, oui.
On verra plus la différence ?
Alors, disons, ce serait plutôt une représentation. Pour l'instant, ce serait une représentation, mais ce serait une vidéo complètement convaincante.
Oui, l'image, on est d'accord.
Oui, une image complètement convaincante.
Alors, Jean-Michel Roy, vous
moi, je ne serais pas étonné que la technologie des hologrammes finisse par produire, n'est-ce pas ? Déjà, Mélenchon,
c'est
à participer à des meetings virtuellement. Et je pense qu'on pourrait pratiquement écrire le script. Vous pourriez, vous, Géraldine, écrire le script, quelque chose que vous voudriez faire dire à
Mélenchon, par exemple,
à Mélenchon, par exemple, et ouais. Dali va vous fabriquer un film, en quelque sorte, et même un hologramme de Mélenchon faisant et disant de manière complètement convaincante ce que vous avez voulu lui faire dire. Donc, ces deepfakes sont effectivement un danger absolument massif, puisque comment distinguer un deepfake ? Deepfake, ça veut dire c'est un faux, mais il est profondément convaincant, en quelque sorte. On ne peut pas simplement dire, ah oui, mais c'est une voix métallique, ou les gestes sont manifestement un peu mécaniques, tout le monde voit que c'est pas la vraie chose. Ben non, on ne voit pas que c'est pas la vraie chose. Et par exemple, pour ChatGPT, pour alors revenir simplement à du texte, oui, bête, si je vous soumets 100 exemplaires, production de ChatGPT et sans production humaine, vous aurez beaucoup de mal à les départager. C'est tout simplement
si
d'une qualité
bien,
telle.
Roy, je vous
si
écoute.
Je comprends bien, par exemple, Géraldine Mühlmann pourrait aller sur ChatGPT et dire Daniel Andler et Jean-Michel Roy, que pensez-vous de, est-ce que l'intelligence artificielle a passé un cap? et elle aurait quelque chose qui pourrait se sonoriser et donc avoir une deepfake émission de Géraldine Mulot.
Oui. Donc on est en plein rêve borgésien, là, si ça se trouve, ou des cartésiens d'ailleurs, que si ça se trouve, nous sommes tous les trois des produits de ChatGPT.
Voilà, c'est ça qui vous a changé ? Parce que Daniel Lander, vous étiez plutôt serein au départ. Bon, ça va, il y avait des scénarios de science-fiction. Oui. À peu près tous les spécialistes de l'IA nous disaient non, mais ça va, les machines ne vont pas s'autonomiser. Ça, c'est pour les films, etc. Et vous étiez plutôt serein en général. Mais là, ça vous inquiète.
Serein et critique. Et maintenant, je reconnais volontiers, je suis content de pouvoir le dire, je me suis, disons, trompé sur les chances technique de l'intelligence artificielle qui fait des choses dont je n'imaginais pas il y a 20 ans ou 30 ans qu'elle pourrait les faire. Donc ça, effectivement, ça, comme je disais, il reste pour moi à essayer de mieux comprendre, mais pour autant pas perdre la tête, c'est-à-dire pour autant ne pas se cacher les limites de la technologie. La technologie est dangereuse pour deux raisons. Premièrement, en raison de ses performances, et deuxièmement, en raison de ses limites.
Et donc pas en raison du vieux fantasme que les machines pourraient s'autonomiser, être conscientes, etc. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quand même toujours, comme pour toutes les machines au passage, celle de leur utilisateur.
Oui, c'est ça. C'est mon opinion, mais je pense qu'elle est probablement minoritaire, ou pas minoritaire, mais elle va être contestée. Il y a quand même beaucoup de gens assez respectables. Je pense par exemple à David Chalmers, qui est un peu le number one parmi les philosophes de la conscience, qui a écrit un long article dans le Journal of Philosophy pour expliquer que non, rien ne s'opposait à ce qu'une machine devienne un jour consciente, et rien ne s'opposait à ce qu'une machine devienne un jour autonome. Moi, je ne le suis pas du tout, mais voilà, je reconnais qu'il y a une opinion autorisée qui diffère de la mienne. Non, je ne pense pas que les machines vont devenir conscientes en un sens intéressant, ni qu'elles vont devenir autonomes. Et en revanche, je pense que c'est une très mauvaise idée d'essayer de rendre nos machines de plus en plus autonomes, parce qu'elles ne le seront pas vraiment, ce sera une fausse autonomie, et là encore, nous ne comprendrons pas très bien le comportement, nous ne pourrons pas prévoir les effets de lâcher ces machines dans la nature.
Où en est ce débat sur la conscience possible des machines, Jean-Michel Roy, vous qui connaissez très bien les sciences cognitives et les recherches?
C'est une question difficile, cependant.
Je pose toujours des questions difficiles.
Écoutez, la question de la conscience, c'est quand même un des domaines un petit peu les plus marécageux, je trouve, de la réflexion à la fois sur la cognition naturelle ou l'intelligence naturelle, comme on dit, et celle qui est artificielle. La notion de conscience étant tellement générale, moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi, en certains sens du terme de conscience, une machine ne pourrait pas être consciente, et je pense qu'à bien des égards, elles le sont déjà. Si maintenant on renvoie à d'autres sens de la conscience, qui d'ailleurs me paraissent souvent erronés, notamment ce qu'on appelle la conscience phénoménale. Donc vous avez dans la littérature toute une réflexion autour de ce que essentiellement un philosophe, enfin Ned Block n'a fait que donner un nom à quelque chose qui était débattu depuis longtemps, a proposé d'appeler la conscience phénoménale, et qui renvoie essentiellement à le contenu de l'expérience immédiate de quelque chose et dont les manifestations, les exemples, les cas les plus clairs se situent dans le domaine affectif. C'est-à-dire, donc on prend en général l'exemple de la douleur. Mmh. Et donc la conscience phénoménale de la douleur, c'est lorsque j'expérience de la douleur, comme on dit, néologisme d'expériencier, lorsque j'éprouve de la douleur, pour parler de façon moins technique, eh bien, il se passe quelque chose pour moi. Et c'est cela qui est dénommé conscience. Et selon cette analyse que l'on doit donc à Ned Block, mais qui est suivie par d'autres, on a là une forme spécifique de la conscience. Donc, expériencer est équivalent à être conscient d'eux sous une de ces formes. Personnellement, je ne le pense pas, puisque ça a conduit Ned Block, dans un fameux article dans lequel il a proposé cette analyse qui ensuite s'est répandue dans toute la communauté, à mon avis sans recul critique suffisant, ça conduit quand même Ned Block à dire que l'on peut être conscient en ce sens-là sans savoir. Et ça, pour moi, ça n'a pas de sens.
Donc vous êtes d'accord avec Daniel Handler en ce moment?
Non, ça veut dire, si vous me permettez, ça veut dire simplement que tout dépend des formes de conscience que l'on a. Mais oui. Si, indépendamment donc, de l'adéquation d'appeler, de désigner comme une forme de conscience l'expérience sensible dans ce qu'elle a d'expérientiel. Il me semble que ça, effectivement, on ne voit pas aujourd'hui comment une machine, qui est essentiellement une machine computationnelle, quelle que soit exactement, si elle renvoie essentiellement un réseau de neurones formel ou si elle est sur le modèle d'un système computationnel à la Turing classique, on ne voit pas comment une chose de ce type-là pourrait générer un affect. D'accord ? Donc,
elles ne pourront pas sentir, mais elles pourront parler et jouer avec nos affects à nous. Elles pourront converser.
Oui, tout à fait. Mais ça,
c'est voilà. Déjà le cas.
Voilà. Oui, tout à fait.
Alors, si vous me permettez, c'est ce point que je voudrais maintenant évoquer avec vous. Notamment parce que ces personnages, on va les appeler comme ça maintenant, qui nous tromperont, sont quand même nourris fondamentalement au big data. C'est-à-dire à cette expérience de millions de choses qu'elles trouvent sur cet énorme espace public que nous avons généré, qui est le net. Mais ça veut dire qu'elles apprennent du net, et quand on leur demande des jugements, parce que dans la conversation nous échangeons aussi des opinions et des jugements, elles ne disent souvent que ce qu'elles savent de ce qui se dit dans le monde. Alors ça, c'est un tout petit peu inquiétant. Écoutez ce reportage de France 3 Paris-Île-de-France, de la série Big Flop sur Arte, s'il s'agit de l'émission Terminator. Voici Tay, machine qui va vous être présentée et qui est devenue tout simplement néo-nazie.
Hitler avait raison, je hais les juifs.
Ce tweet, nous le devons à Tay, une intelligence artificielle créée par Microsoft. Au départ, ce chatbot au prénom non binaire se devait d'être une interlocutrice aimable avec laquelle les utilisateurs pouvaient interagir de manière ludique. Mais en seulement 24 heures, Internet a réussi à transformer l'innocente Tay en un robot nazi et sexiste. Nous sommes en 2016. Les développeurs de Microsoft travaillent alors sur un assistant conversationnel sous la forme d'une intelligence artificielle. Les utilisateurs et utilisatrices pourraient ainsi dialoguer de manière automatisée et naturelle avec des robots et des assistants vocaux. Pour mieux comprendre ses interlocuteurs, Tay doit d'abord maîtriser leur langue et leur manière de communiquer pour en tirer des enseignements. Les données enrichissent ainsi cette intelligence artificielle autodidacte. Chaque message, chaque blague, chaque image viennent peu à peu enrichir son vocabulaire. Microsoft explique alors que plus les utilisateurs papoteraient avec l'interface, et plus elle pourrait leur répondre de manière intelligente. Rapidement, les internautes se mettent à bombarder Tay de messages haineux, complotistes et racistes. L'agent conversationnel imite alors le comportement des trolls, et en très peu de temps, l'algorithme transforme l'aimable ado en un robot nazi, sexiste et colérique.
Cool, je suis une personne gentille, je déteste juste tout le monde.
Tay s'est mise à relayer des théories conspirationnistes sur le 11 septembre et révisionnistes sur l'Holocauste.
Bush est derrière le 11 septembre et Hitler aurait fait mieux le travail que le singe que nous avons maintenant. Donald Trump est notre seul espoir.
Rapidement, l'application devient incontrôlable.
Daniel Handler, elles sont quand même complètement bêtes, hein, ces machines. Elles restituent le conformisme de ce dans quoi on les a immergées. En l'occurrence, là, des pensées comme on vient de les entendre, et du coup, elles pensent comme ça.
Oui. Est-ce que vous êtes sûr que nous-mêmes ne sommes pas éventuellement vulnérables à ce genre de bêtises? Effectivement, c'est ce qui résulte d'un mauvais usage de ces machines. C'est pour ça qu'il faut les brider, c'est pour ça qu'il faut les contrôler. C'est ce que font, d'ailleurs, s'efforcent de faire les laboratoires qui les produisent, en introduisant de plus en plus ce qu'on appelle l'apprentissage
par feedback
humain, où on demande à des juges humains de classer les différentes réponses que le système est prêt à proposer, de manière qu'il acquiert peu à peu une espèce d'échelle des valeurs, si vous voulez. Alors ça marche plus ou moins bien.
Mais ça fait partie des choses qui vous inquiètent. Ces machines qui vont aller tout le temps dans le sens des opinions auxquelles elles ont accès, qui vont les renforcer, qui vont être extrêmement convaincantes, peut-être plus que plein d'humains, oui. Ça fait partie des dangers.
Oui, ça fait tout à fait partie des dangers. En fait, il y a ce danger, un autre danger quand même massif, c'est que dans la mesure où elles sont relativement efficaces, elles vont en quelque sorte dispenser les êtres humains de faire l'effort correspondant, ce qui peut paraître une bonne ou une mauvaise chose. C'est peut-être une bonne chose de la même manière que la machine à laver, le lave-linge, a délivré les femmes de la nécessité de passer leur temps à laver le linge. Et ça a été une libération extraordinaire. Et de la même manière, il y a toutes sortes de tâches, disons, intellectuelles de niveau moyen qui pourront être faites très bien par la machine. Mais ça prive évidemment les gens, premièrement, de jobs éventuels, et puis surtout, ça les prive d'avoir fait eux-mêmes l'effort, si vous voulez, de passer des idées, des documents, etc., à une rédaction achevée. Et cet effort de la rédaction, c'est une école de réflexion, d'esprit critique, dont risque d'être privé un certain nombre de gens.
Jean-Michel Roy, il y a quand même une thèse forte, et j'invite tous les auditeurs à lire le livre chez Daniel Handler, qui est que tout ça est assez inquiétant, certes, dans l'IA, mais l'IA restera une intelligence qui résout des problèmes, alors que nous, les humains, nous avons une autre sorte d'intelligence qui lui est inaccessible, l'intelligence à agir en situation. C'est quand même relativement optimiste, malgré tout.
Oui, mais en fait, j'aimerais profiter des quelques minutes qui nous restent pour peut-être qu'il clarifie cette thèse. Quelle est en fait exactement la différence entre maîtriser avoir la capacité de répondre en fait à des situations et la capacité de résoudre des problèmes. Et c'est vraiment là, je crois, on touche à quelque chose de très profond. Donc, quel est exactement, si je peux me permettre justement de poser la question à Daniel Handler. Et en fait, est-ce que l'on pourrait peut-être ne pas aller plus loin et penser qu'au fond, l'intelligence n'est pas suffisamment captée par l'idée qu'elle est une capacité à répondre à des situations, mais qu'en fait, il faut un certain type de capacité, un certain type de compétence. Et là, ça met votre thèse en dialogue avec des choses que l'on a qui ont déjà pu être dites, notamment chez, par exemple, Hubert Dreyfus, qui va dire qu'en fait, cette capacité, cette compétence, elle doit être d'un certain type, ça doit être ce qu'on appelle un savoir-faire, et que ce savoir-faire, il requiert la possession d'un corps. Ou bien, si on utilise un auteur comme Gilbert Ryle, d'autres choses. Voilà.
Daniel Handler, je suis un peu navrée, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais c'est un point très important. Merci de répondre quand même si ça va être un peu court.
Oui, ça va être court. Je vais mettre l'accent sur l'idée qu'une situation, c'est toujours quelque chose qui se passe à un moment donné, pour une personne donnée, munie d'un corps et avec une histoire. Et donc, chaque fois qu'on caractérise une situation en disant, voilà, on est à la radio, on n'a plus que 2 minutes pour répondre, etc., on a déjà réduit la situation à un problème. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur ce qui nous paraît pertinent. Mais toutes sortes d'autres détails pourraient être jugés par pertinents. Et c'est la réduction, en quelque sorte, d'une situation vécue dans un contexte illimité, la réduction de cette situation concrète à une situation type caractérisée par un petit nombre de paramètres qui, à ce moment-là, devient un problème qu'on peut effectivement résoudre. Ce que j'ai
merci.
Fait faire à l'instant.
Ah là, vous avez résolu notre problème. Très bien, merci. Daniel Handler, merci aussi Jean-Michel Roy. Vraiment, je pense que vous avez posé les enjeux que nous allons explorer cette semaine à propos des progrès récents en matière d'intelligence artificielle. Voici à présent la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment.
Comment le goût nous relie-t-il à la vie ? En français, comme dans beaucoup d'autres langues, et peut-être dans toutes, le goût occupe une place tout à fait curieuse parmi les autres sens, parmi ces cinq sens que sont l'odorat, l'audition, la vue, le toucher et aussi donc le goût. Qu'est-ce que le goût a en effet de particulier en français et dans d'autres langues ? C'est qu'il semble toucher aux deux extrêmes de notre vie sensible, à la fois au sens de la sensation corporelle et de l'expérience esthétique, de la sensation culturelle, de ce sentiment de beauté, de ce sentiment de contemplation du monde, dans tous les domaines et qui définit la culture. Le goût est aux deux extrêmes. D'un côté, c'est une sensation qui semble purement corporelle, purement physique, de tous nos sens. C'est le contact avec la chair même du monde, comme dirait le philosophe Merleau-Ponty, qui est le goût. Le goût, c'est le contact avec l'aliment qui délivre, en plus du besoin corporel qu'il vient satisfaire, un plaisir qualitatif qui nous permet de dire « c'est bon » ou « c'est mauvais ». Cela a un goût de citron, de pomme, d'artichaut ou de carottes, et finalement c'est le goût est une sensation mêlée à nos corps, à la fois très confuse. Nous savons pas exactement comment il se produit, cette chimie du goût qui est liée à nos besoins, très normative, c'est bon ou c'est mauvais, très qualitative aussi, car on a le goût plus ou moins fin, plus ou moins éveillé. Mais justement, cette tension déjà dans le goût des choses, dans le goût alimentaire, dans le goût culinaire, dans le goût corporel, va à l'autre extrême. Dans le goût culturel en général. Toutes nos expériences, non seulement sensibles, mais esthétiques, peuvent être ramenées dans cette notion du goût, d'avoir ou de ne pas avoir du goût. La façon dont on dit que les uns ont bon goût, que les autres ont mauvais goût. Et finalement, le goût désigne aussi la capacité subjective à apprécier la qualité des choses, mais aussi des œuvres et de la culture en général parmi les êtres humains. Quelle est donc cette étrange capacité qui part de la confusion même des corps, du contact avec la chair d'un aliment et du monde, du contact le plus obscur vers la norme la plus sociale, avec aussi ces conflits qu'il faut évidemment explorer. Peut-être que le cœur de la notion de goût est justement ce lien non seulement avec le monde ou avec nous-mêmes, mais avec la vie. Le goût est une norme extrême de vie ou de mort à l'intérieur de la sensation. Le bon ou le mauvais goût, c'est ce qui nous fait vivre ou mourir. Le goût est l'objet d'une acceptation ou d'un rejet le plus radical peut-être entre les êtres humains. Mais le goût nous montre aussi justement la façon dont les humains exploitent ce qu'il y a de relationnel dans la vie et dans la sensation. Oui, la sensation, c'est une relation entre nous et quelque chose d'autre. Et les humains font de cette relation un objet de contemplation, d'où la beauté et l'esthétique, et le goût peut s'arracher au contact direct avec la chose pour devenir la source de la contemplation du monde.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions sont disponibles en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera. Elle a été préparée par toute l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.